nous pouvons devenir ce que nous voulons être.
Oser être brillant, c'est se dire, ben non, je me suis assez préparée, ça suffit, maintenant je vais me montrer, maintenant je vais m'exposer.
Rêvez et vivez vos rêves jusqu'au bout. Vous n'avez aucune limite.
Bienvenue sur Shape Your Career, un podcast pour les femmes qui souhaitent prendre le contrôle de leur carrière professionnelle sans s'essouffler et qui œuvrent pour un monde professionnel plus égalitaire. Je te partage toutes ces compétences et ces clés pour t'aider à gravir les échelons de l'entreprise. Ce podcast va devenir ton meilleur allié pour booster ta carrière dans le respect de tes valeurs et de ton authenticité. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode spécial. Cette saison est une saison particulière car le podcast Shape Your Career est accompagné d'un partenaire de marque qui partage les valeurs et l'engagement du podcast Shape Your Career. Je suis heureuse de vous annoncer que le groupe Engie, à travers sa filiale Engie North Africa, s'associe au podcast Shape Your Career dans la promotion de la mixité et de l'égalité professionnelle. J'aurai donc le plaisir de recevoir au cours de cette saison des acteurs et des actrices du groupe passionnés et engagés au profit de cette cause qui partageront leur retour d'expérience en la matière. Depuis plus de 10 ans, le groupe Engie mène une politique volontariste pour promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle femmes-hommes et déploie des actions concrètes destinées à faire progresser les femmes au sein du groupe, accompagner leur évolution de carrière et transformer profondément la culture d'entreprise. Je suis ravie d'aller à la rencontre de Renata Spada, Engie Group VP Talent Acquisition Diversity Inclusion, qui me reçoit dans les locaux d'Engie à Paris La Défense et qui nous en dira plus sur l'engagement d'Engie en matière de mixité et d'égalité professionnelle. Bonjour Renata, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir au sein de vos locaux. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Renata ?
Oui, bonjour. Moi aussi, je suis ravie de participer de cette rencontre. Donc, je suis Renata Espada, je suis brésilienne et j'ai d'autres nationalités. Je suis aussi italienne et française et j'habite en France depuis 20 ans. Donc, chez Engie, comme aujourd'hui en charge de l'acquisition de talents, la diversité et l'inclusion, mais auparavant en charge du développement des talents.
Merci beaucoup, Renata. Alors, pouvez-vous nous décrire, s'il vous plaît, Renata, dans les grandes lignes, la politique D&I chez Engie et comment celle-ci est déployée au sein des entités du groupe ?
Oui, donc le groupe Engie a une politique D&I très volontariste qui couvre plusieurs aspects de la diversité. Elle s'appelle Be You at Engie, donc soyez vous-même chez Engie. Parce que c'est en étant vous-même que vous soyez le meilleur de vous-même. Et donc, nous couvrons des aspects comme l'intergénérationnel, les origines, l'handicap. Mais notre dimension principale, celle qui a initié les mouvements de l'inclusion chez Engie, c'est la dimension des diversités des genres. Donc, nous avons un objectif très clair qui a été validé par notre conseil d'administration, un objectif des premiers rangs, qui vise à arriver à la mixité des genres, donc au moins 40% des femmes dans les corps managériels d'ici 2030.
Et comment le groupe est-il parvenu à instaurer cette culture de la mixité à tous les niveaux de l'entreprise et dans ses filiales ?
C'est une très bonne question, parce que ce n'était pas du tout évident au début. Surtout que nous avons commencé ces mouvements vers la parité à la période du Covid. On était tous confinés, donc ce n'était pas du tout évident. Mais ce que nous avons fait et qui a bien marché, c'est que nous avons adopté une approche systémique. Nous avons agi dans toutes les étapes du cycle de vie de l'employé, en créant des actions pour toutes ces étapes. Donc, et nous avons aussi agi sur l'éducation, la sensibilisation. D'abord, on a beaucoup suscité les débats. Nous avons créé plusieurs forums de discussion dans les COMEX de nos entités, mais aussi entre la filière RH, d'autres filières du groupe. Et une fois que nous avons commencé à lever les tabous et discuter sur les thèmes, nous avons vu la nécessité d'éduquer les gens. Parce que même si les gens avaient trouvé leur propre pourquoi pour embarquer dans ces mouvements, ils ne savaient pas comment le faire. Donc, nous avons créé plusieurs programmes de formation customisés. C'était pas quelque chose que nous avons trouvé dans le marché. Nous avons vraiment créé avec des partenaires qui sont aussi des entreprises sociaux militantes sur les thèmes, qui nous ont aidés donc à trouver les justes moyens d'embarquer les gens. Et là, nous avons fait ça à tous les niveaux hiérarchiques et aussi pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Il y a des programmes des coachings, par exemple, pour les hommes, pour les faire justement comprendre cette transition sociale et culturelle dans notre société, pour qu'ils puissent aussi trouver leur propre place dans ces mouvements. Je pense que c'est ça qui a vraiment marché, c'est une approche systémique. On ne peut pas juste faire une action ou autre action. Il faut agir partout en même temps, sans arrêt.
Sans arrêt. C'est la clé. Ce sont des efforts permanents et qui s'inscrivent effectivement dans la durée aussi pour pouvoir en récolter les fruits également. Alors, vous avez évoqué le programme 50-50 qui consiste à atteindre à horizon 2030 40% des femmes aux postes managériaux. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes aujourd'hui par rapport à cet objectif et concrètement, quelles sont les actions menées par Engie pour parvenir à la réalisation de cet objectif?
Une des choses, c'était justement créer l'objectif. Parce qu'une fois qu'on crée l'objectif, il faut se donner les moyens. Une des choses que nous avons fait, c'est communiquer dans le marché cet objectif. Donc, il y a aussi une pression externe aujourd'hui de nos investisseurs, de nos actionnaires, pour qu'on puisse atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et pour ça, donc, nous avons créé d'autres objectifs. La première chose que nous avons fait, c'est créer un tableau de bord avec des indicateurs qu'on suit pour savoir si nous sommes dans la bonne direction. Un de ces indicateurs, par exemple, c'est les recrutements, parce que c'est un levier majeur pour pouvoir arriver à cette mixité en 2030. Donc, nous avons un objectif dans les bonus de nos dirigeants aujourd'hui pour les recrutements de femmes. Donc, minimum 35% pour les groupes. Nous sommes déjà, cette année, nous sommes déjà à 33,2%. Ces derniers trimestres, donc on espère pouvoir atteindre cet objectif à la fin de l'année. Autre chose, c'est aussi impliquer nos dirigeants dans cette démarche. Donc on les fait parler du sujet. D'abord, quand ils parlent, il faut qu'ils s'éduquent, il faut qu'ils apprennent sur les sujets et après, il faut qu'ils cascadent dans leurs équipes. Et donc nos dirigeants sont en train de faire ça aujourd'hui. C'était pas facile au début, mais après 3 ans des programmes, là, ils voient que cet entrant qui est parti et que si on ne les prend pas, on va rester derrière. Donc, il faut embarquer tout le monde, comme j'ai dit. Et il faut aussi préparer les femmes pour ces changements parce que nous avons mis beaucoup de limites tout au long des années, en fait. Et donc, il faut aussi lever ces limites des femmes. Mais je n'aime pas dire que c'est un problème des femmes. C'est un problème sociétal. Donc, il faut agir sur la société et les femmes en font partie. Donc, il y a des programmes aussi, des coachings pour les femmes. Mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Et ce n'est pas que des réseaux féminins qui vont changer les choses. Il faut constituer un réseau mixte des gens qui sont vraiment engagés à changer la culture. Et c'est ça qu'on essaye de faire chez Engie. On essaye d'embarquer tout le monde dans la démarche parce que c'est à travers tout le monde qu'on va y arriver. Et pas seulement à travers les femmes.
Merci pour ce partage, Renata. C'est très clair et c'est effectivement l'affaire de toutes et de tous si nous souhaitons véritablement que les mentalités changent chez les femmes et chez les hommes. Alors, on assiste aujourd'hui en France et en Europe, d'une manière générale, à une volonté d'accélérer l'égalité professionnelle à travers des politiques de quotas, notamment récemment à travers la loi du 24 décembre 2021 qui impose aux entreprises d'au moins 1000 salariés une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des grandes entreprises. Accompagné également d'une obligation de transparence en la matière. Pensez-vous que les quotas peuvent être des leviers au profit de l'égalité professionnelle et qui peuvent contribuer justement à ces changements de mentalité dont on parlait dans les entreprises au profit d'un recrutement plus inclusif?
Oui, je ne peux être plus d'accord. En fait, on a fait ça chez nous. En fait, on a commencé les programmes 50-50 en créant en fait cet objectif en 2030. Et c'est un type de quota. Donc, personne n'aime les quotas, ni les femmes, ni les hommes. Les femmes, surtout, elles n'aiment pas du tout les quotas. Mais elles sont nécessaires. Parce qu'on a vu depuis des années et des années qu'on en parle, les choses n'avancent pas. C'est vraiment en fixant des quotas qu'on arrive à faire changer les chiffres. Au moins, c'est ça chez Engie. Je peux vous donner l'exemple d'Engie. Avant d'avoir cet objectif, on avait toujours un niveau des femmes dans le management, des 22-23%. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 31%. Si ce n'était pas les quotas, on n'aurait jamais arrivé là. Parce que ce n'est pas juste une question de changer la mentalité. Il faut se donner des objectifs. Comme on se donne des objectifs pour le business, c'est la même chose. C'est en affaire du business d'ailleurs, parce que parce que la diversité des genres apporte la performance, apporte l'innovation. Donc il faut les traiter comme un sujet business.
Alors justement sur les bienfaits de la politique mixité chez Engie, Renata, comment vous mesurez depuis l'instauration du programme 50-50 ce changement, notamment dans les mentalités, mais aussi à travers vos objectifs concrets?
Oui, déjà, on mesure sur les chiffres. On voit que les chiffres évoluent. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer et lier la performance à l'évolution des équipes en termes de diversité. Nous n'avons pas encore trouvé la bonne formule, mais il y a des sociétés comme Sodexo qui l'ont fait et qui ont prouvé que justement les équipes plus mixtes sont plus performantes chez eux. On voudrait, je pense que c'est la prochaine étape pour Engie, c'est justement arriver à prouver ça. On n'a pas encore cette mesure chez nous. Ce qu'on peut voir, c'est les changements culturels. Ça, on les voit très clairement. Il y a très peu de temps, on ne pouvait pas parler de ces sujets et ça crispait tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde en parle de façon naturelle. Il y a ceux qui sont encore résistants, c'est naturel, parce qu'un changement culturel ne se passe pas d'un jour à l'autre. Mais même ceux qui sont résistants, ils commencent à vouloir comprendre les pourquoi de ces mouvements. Et donc là, c'est une grande, grande évolution pour nous.
Le why, le fameux why. Bravo pour toutes ces initiatives et votre engagement sans faille en matière d'égalité et de mixité professionnelle. Alors j'aimerais maintenant qu'on prenne un peu plus de temps, Renata, pour parler de vous et de votre parcours. J'aimerais savoir quelles difficultés, quels défis vous avez rencontrés pour atteindre aujourd'hui la position top management dans laquelle vous êtes aujourd'hui chez Engie. Et comment avez-vous pu surmonter ces défis, si effectivement ces défis, vous les avez rencontrés?
Bon, là, c'est une longue histoire, parce que je suis venue vraiment de loin. Déjà, je suis venue d'une famille classe moyenne au Brésil. Je suis la première personne, par exemple, à avoir un diplôme universitaire dans la famille de ma maman. La troisième dans la famille de mon papa, parce que mes cousines étaient plus âgées que moi, donc elles ont réussi avant moi. Donc, je suis venue vraiment de loin. Et j'ai étudié d'abord les droits au Brésil, parce que depuis le début de mes études, j'ai toujours voulu avoir une carrière internationale. Je ne savais pas comment, mais j'ai choisi les droits parce que je pensais être diplomate. Je pensais que c'était la carrière qui allait me plaire, mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans mes études, j'ai vu que non. En fait, ce que j'aimerais faire, c'était de travailler pour des entreprises. Donc, j'ai travaillé tout d'abord pour Pricewaterhouse en tant que fiscaliste. Ils m'ont appris la finance. Et après Pricewaterhouse, au Brésil, à Rio de Janeiro, après Price, je suis allée dans un de mes clients qui était Lafarge, une société française, parce que moi, j'étudiais déjà la langue française. J'ai toujours aimé étudier les langues. Et ça m'a beaucoup aidé, ça a ouvert des portes. Et donc, chez Lafarge, j'ai travaillé surtout dans les juridiques, dans les contrats internationaux et aussi comme fiscaliste. Et après Lafarge, j'ai quitté Lafarge pour aller chez EDF au Brésil. EDF avait une grosse société au Brésil. Et chez EDF, justement, j'ai basculé de la fiscalité à la finance pure. Donc, j'ai été responsable des opérations financières, j'ai travaillé la restructuration de la dette de la société et comme les projets étaient très bien réussis, ils m'ont invité à venir en France. C'est comme ça que je suis venue en France en tant que financière dans les contrôles de gestion au siège d'EDF à Paris. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit, les chemins étaient vraiment longs. Et chez EDF, j'ai passé 2 ans en tant que contrôleur de gestion. C'était pas du tout ce que j'aimais faire parce que moi, j'aime beaucoup la relation avec les gens et j'étais juste inondée des chiffres. Donc, j'ai décidé de quitter les groupes. Quand ils ont vendu, ils ont aussi vendu la société au Brésil. C'était les moments pour moi de quitter EDF. Et donc, à ce moment-là, j'ai rencontré un chasseur de tête qui m'a proposé une position en ressources humaines pour une boîte américaine métallurgique qui venait de s'implanter en Europe. Donc, ils avaient acheté plusieurs sociétés. Ils ont créé un groupe en Europe. Ils voulaient quelqu'un en ressources humaines qui comprenait la finance. Et comme j'avais aussi le monde juridique à apporter, donc c'était un très beau mariage. Je suis devenue la DRH de ces groupes en Europe. Donc, j'étais responsable de 25 pays et membre du COMEX de cette société. J'ai passé 11 ans heureux dans cette société jusqu'à ce qu'il y ait un changement de management. C'était aussi pour moi l'opportunité de passer à autre chose. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Engie Et en 2018, en tant que directrice talent, parce que après toute mon expérience en ressources humaines, ce que j'ai beaucoup aimé faire, c'était la gestion des talents, parce que je trouve que c'est un vrai levier des changements pour une boîte, le développement du leadership. Et donc, voilà, je suis venue comme ça et j'ai pris les projets 50-50 un peu par hasard, en plus de ce que je faisais déjà comme directrice talent. Et donc, voilà, et grâce à ces projets que nous avons finalement, en 2021, créé la fonction de diversité, équité et inclusion, où je suis aujourd'hui, que nous avons aussi ajouté donc, la responsabilité d'acquisition de talent. Donc aujourd'hui, je suis responsable pour la stratégie d'acquisition de talent du groupe, des relations académiques, employer branding, donc la marque employeur, et diversité, équité et inclusion.
Excellent, un riche parcours et je me rends compte qu'on a un point commun. Nous sommes juristes de formation toutes les deux, donc oui, le droit ouvre beaucoup de portes. Et au cours de ta carrière, Renata, as-tu rencontré des challenges particuliers dans ton évolution en tant que femme?
Énormément. Parce que vous avez vu mon parcours, moi j'ai toujours travaillé dans des sociétés qui étaient très masculines. Donc l'énergie, le monde de l'énergie déjà, mais aussi la Farge, c'était le monde des matériaux de construction. Et la société américaine Snap and Tools, c'était une société d'outillage, donc métallurgique. Donc j'ai toujours navigué dans le monde des hommes sans les comprendre, sans comprendre les règles. Donc je fais beaucoup de mauvais pas, des faux pas, qui m'ont ralenti. Je pense que je pourrais être beaucoup plus loin aujourd'hui, peut-être, si je connaissais les choses que je connais aujourd'hui. Parce que c'est vrai que j'ai appris assez récemment tout ce que je pouvais faire en tant que femme. J'avais des limites qui m'avaient été imposées peut-être par ma propre famille, des limites qui m'avaient été imposées par la société en général et des limites qui m'étaient imposées dans les boîtes où j'ai travaillé. Mais en fait, je ne connaissais pas toutes les possibilités, toute la panoplie des possibilités qui pouvait s'ouvrir à moi. Et j'ai découvert ça petit à petit, au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière, que je prenais confiance en moi, parce que je n'avais pas du tout confiance en moi au début. Mais au fur et à mesure que j'ai eu mes petits succès, un après l'autre, j'ai vu de quoi j'étais capable. Et donc, ça m'a ouvert des portes. Mais trop tard dans ma carrière. Donc, aujourd'hui, si je peux donner un conseil aux jeunes femmes qui commencent leur carrière, c'est de d'abord rêver grand. Rêver très grand. Ne vous imposez pas des limites. Déjà, moi, je rêvais grand, même si je ne savais pas comment j'allais arriver, je rêvais grand. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière, je voyais plein d'obstacles que je ne voyais pas au tout début. Et ça m'a ralenti. Donc, après commencer à rêver grand, ne vous laissez pas arrêter pour les premiers obstacles. Et formez-vous, en fait. Formez-vous dans ces programmes nombreux de coaching qui existent aujourd'hui pour les femmes. Apprenez un peu les règles des fonctionnements des grandes sociétés. Parce que la vérité, c'est qu'elles ont été créées par des hommes pour les hommes. Elles n'ont pas été créées pour les femmes. Donc, il faut changer les règles. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas parlé, mais avec 50-50, on vise aussi changer les règles. Donc, par exemple, les travails flexibles, ça favorise les femmes. L'extension des congés paternité pour les hommes, ça favorise les femmes. Il y a plein de choses qu'on doit changer dans les boîtes aujourd'hui pour qu'elles puissent être aussi inclusives pour les femmes, parce qu'elles ne sont pas encore là. Donc, il faut avoir conscience de tout ça et ne pas se laisser arrêter au milieu du chemin. Donc voilà, c'est donner les moyens pour y arriver. Les choses ne vont pas tomber du ciel. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un fort mouvement pour les femmes que ça va être facile. Il faut vraiment se donner les moyens pour y arriver. Et autre chose importante pour moi, c'est se connaître. Bien se connaître pour savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Parce que c'est pas tout le monde qui veut le monde corporatif. Et c'est pas tout le monde qui veut aussi travailler dans la maison. Moi, je n'ai jamais voulu. Je savais très vite ce que je ne voulais pas. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Parce qu'il y a aussi des femmes qui aiment être à la maison. Et c'est très bien. Ce qui est important, c'est d'avoir le choix. Voilà.
Merci beaucoup pour ce partage, Renata, et pour cette belle conclusion aussi, avoir le choix. J'aime beaucoup aussi votre partage par rapport à apprendre les règles décoder les codes, en fait, toutes ces règles non écrites pour lesquelles nous ne sommes pas formés, que ce soit dans les universités, les établissements les plus prestigieux, ce sont des règles que l'on apprend sur le tas, qu'on soit jeune femme ou même femme établie en milieu de carrière. Et c'est important, effectivement, comme vous l'avez justement dit, de composer avec l'environnement et apprendre à décoder ces règles non écrites qui font partie aussi de ces sujets que j'aborde dans le podcast Shape Your Career pour vraiment outiller les femmes à composer, à décoder les règles non écrites de l'entreprise pour pouvoir aiguiser et façonner leur carrière et prendre leur place dans le respect de leurs valeurs et de leur authenticité. Merci beaucoup, Renata, pour cet échange. J'étais vraiment ravie d'aller à votre rencontre et de faire plus ample connaissance et d'en savoir davantage sur la politique égalité et mixité professionnelle du groupe Engie. Donc, un grand merci, Renata. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous revoir très vite.
C'est moi qui te remercie. J'étais vraiment très contente de participer et de pouvoir aider d'autres femmes à progresser.
Merci Renata et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que cet échange avec Renata Spada vous a plu. Très inspirant, très riche en apprentissage. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'aidera à prendre le contrôle de ta carrière professionnelle sans t'essouffler. Et si tu souhaites soutenir le podcast Shape Your Career, rien de plus simple, il suffit de t'y abonner à partir de la plateforme de podcast de ton choix et à y laisser un commentaire et un avis 5 étoiles. Je te remercie chaleureusement et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.